C'est qu'on est dans une série sur les os de la Bible. Les os, c'est les choses, quand on tombe dessus, il y a de la matière à ronger, vous voyez. Il y a des parties qui sont difficiles dans la Bible, des paroles qui sont difficiles, on l'a vu la semaine dernière. Hein, comme ça? Comme ça? C'est mieux? Ok. Désolé. Et des parties difficiles, donc, qu'il faut digérer. Parfois, on a des os, et ce matin, on va aborder un de ces os. Mais avant de commencer, je vais vous raconter une petite anecdote perso. Il y a une vingtaine d'années, Lenny était tout petit, et puis sa sœur, ils ont 14 mois d'écart, donc vous imaginez, c'était dans la voiture, on rentrait sur une course, et là, on longeait le canal de Bourgogne. Et donc, à côté d'un canal, cette route, elle est très étroite. Et en face de nous, un gros camping-car en plein milieu de la route. Et là, je vois arriver le truc, et donc je fais des appels de phare. Ce que l'on fait quand on voit un danger imminent qui approche. Et puis, malgré les appels de phare, le camping-car ne bouge pas. Il reste figé au milieu de la route. Alors du coup, j'appuie plusieurs fois sur le klaxon. Et toujours rien. Alors du coup, je me braque, je me mets le long de la rambarde, et je pouvais pas aller plus loin parce qu'après je tombais dans le canal. Et donc j'étais là et j'ai quasiment arrêté le véhicule. Et ce qui devait arriver arriva. Boum ! Alors j'ai pas pris de front, mais mon rétroviseur il a explosé et il pendouillait avec les fils. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ? C'est injuste. J'ai averti, j'ai fait tout ce que je pouvais pour éviter la situation, et pourtant, ça s'est passé quand même. Alors, vous savez ce que j'ai fait comme dans les films. Je ne sais pas si vous avez regardé des épisodes du SWAT, à un moment donné, il tire le frein à main, demi-tour, et hop, il poursuit l'assaillant. Et bien là, j'ai poursuivi un camping-car. C'est pas trop compliqué à faire, on va réduire parce que ça roule pas vite un camping-car, mais j'ai fait demi-tour, et j'ai continué à faire des appels de phare pour qu'il s'arrête. Eh bien, après un kilomètre, rien. Appel de phare, klaxon, rien, rien ne faisait. Et donc, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Comme le SWAT, j'ai doublé le camping-car et là, je me suis arrêté en plein milieu de la route. J'ai bloqué la route pour qu'il n'avance plus et là, il a été contraint de s'arrêter. Bien sûr, je ne suis pas resté dans mon véhicule à attendre. Je suis sorti et là, je suis allé frapper la fenêtre. Et je lui ai expliqué ce qui venait de se passer. Et je lui ai dit, mais regardez, je vous ai fait des appels de phare, pas du tout. Mais je vous ai klaxonné, mais pas du tout. Mais regardez mon rétroviseur, il pendouillait encore. Et regardez même votre carrosserie, elle est toute rayée. Vous avez fait ça maintenant? Absolument pas, j'ai rien entendu, j'ai rien vu. J'attendais juste qu'il sorte sa canne blanche, vous voyez, qu'il me dise, ah, mais en plus, je suis aveugle. C'était presque ça. Il niait tout en bloc, et quand vous avez quelqu'un comme ça en face de vous, et on est à Dijon, la moutarde commence à monter au nez. Hein. Et là, avant de faire une bêtise, je vais voir Sandrine, je lui dis, écoute Siri, vas-y, essaye de lui expliquer. Et donc, elle sort de la voiture, moi je vais me rasseoir, je me calme, et ma femme gentiment va lui dire, écoutez monsieur, on était dans la voiture, il y a nos enfants, on vous a vu arriver, on a klaxonné, on a fait des appels de phare, enfin bref, elle lui raconte tout. Monsieur, il regarde, il dit, mais non, pas du tout, madame, c'était pas moi. Et Sandrine, elle a pété un câble. Elle a commencé à mettre des coups de pied dans les roues, à tordre les essuie-glaces, etc. Et c'est moi qui ai dû aller la voir, dire, arrête, chérie, ça sert. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que l'attitude, la posture de ce chauffeur, eh bien, c'est un petit peu la thématique qu'on va aborder aujourd'hui. C'est une sorte de blasphème contre le Saint-Esprit. Je ne vous en dis pas plus. On va regarder ce texte-là parce qu'il est difficile. Il est difficile. Et c'est un texte qui n'est pas pris comme ça, une petite parole. Il est repris dans les trois évangiles. Matthieu, Marc et Luc. Matthieu chapitre 12, c'est le texte qu'on va aborder. Marc chapitre 3 et Luc chapitre 12. Et donc, quand un texte est repris trois fois, c'est qu'il est important. Et c'est Jésus qui va parler de ce blasphème. Jésus qui a pardonné des collaborateurs. Jésus qui a pardonné un meurtrier sur une croix à ses côtés. Il a pardonné des blasphémateurs, des gens qui l'avaient insulté, des gens de mauvaise vie, des prostituées, des hommes et des femmes adultères. Un Dieu et un homme remplis de grâce. Une grâce qu'on n'aura jamais, les amis. Et pourtant, vous allez voir ces paroles cinglantes, et on va les lire ensemble. Juste, on lit là pour le moment le texte qui nous intéresse et on regardera plus tard le contexte. Mais regardez ces paroles. Ah, tu peux avancer. Ça marche pas ? Ah, voilà. Non, c'est pas là, ici. Les versets 31 et 32. Regardez ce que dit Jésus. « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Jésus est en train de dire qu'il y a un péché impardonnable. Et là, les jeunes convertis s'inquiètent. Ils se posent la question en disant « Mince ! Et si j'avais commis ce péché ?» Et parfois, des chrétiens de longue date, quand ils tombent sur ce texte, se disent « Mais peut-être que là, j'ai dépassé la borne. Peut-être que j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit. Et peut-être que je vais perdre mon salut. » Okay ? Ce sont des questions qui surviennent quand on lit ce texte. Parce que, effectivement, c'est un avertissement solennel, là. On est en train de dire que s'il y a un péché que tu commets, celui-là, il ne sera jamais pardonné. De quel péché il s'agit ? Eh bien, on va faire notre petite enquête, si vous voulez bien. Et là, eh bien, il va falloir remonter un petit peu plus loin dans les versets. Et l'idéal, ce serait même ce que j'ai fait hier. J'ai réécouté Marc, tout l'évangile de Marc, c'était le plus court. Et en fait, on voit qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avant cet événement. Beaucoup de miracles que Jésus avait fait, et Marc le situe au chapitre 3, mais il n'a pas toute la partie sur la naissance. Il attaque directement avec Jean-Baptiste et il commence avec des miracles. Et donc, quand on arrive même au chapitre 3 avec Marc, il y a déjà une flopée de miracles et des discussions un peu houleuses avec les pharisiens qui ont déjà eu lieu. Des accusations ont déjà été portées envers Jésus. Et donc, vous voyez, il y a tout un contexte. Et là, on va regarder le contexte direct dans Matthieu chapitre 12. Et donc, si vous avez vos bibles, vous pouvez les prendre. Sinon, vous allez pouvoir le lire ici. Est-ce que tu peux avancer, la magie ? Je ne sais pas pourquoi, ça ne fonctionne plus. Oui. Voilà, alors. Les versets 22, ça a avancé tout d'un coup, c'est ça ? Pour écouter la slide juste après. Bah, si vous n'avez pas le texte, prenez-le dans vos bibles. Je vous lis à partir du verset 22. Voilà. Est-ce que tu peux avancer ? Non, ça. On a essayé déjà. On avait essayé, ça fonctionnait. C'est toujours comme ça. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet et le guérit. De sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point là le fils de David ?» Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Et c'est pourquoi je vous le dis. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alors le contexte. Et là, c'est vraiment deux verdicts avec une même preuve. Il y a un homme qui est aveugle et muet, habité par un démon, qui est amené à Jésus. Et donc Jésus le guérit instantanément, l'homme va retrouver à la fois sa voix et sa vue. Ce n'est pas des petits miracles, hein. Si vous avez connu, j'ai un ami qui est aveugle de naissance, je pense que si du jour au lendemain il venait et qu'il me dit « ça y est, je vois », je serais quand même surpris. Mais si en plus il était muet et qu'il se met à parler, donc vous imaginez, c'est vraiment un miracle extraordinaire qui vient de se passer ici. Quelque chose d'assez époustouflant qui ne laisse aucun doute quant à la puissance et à l'autorité de Jésus. Et en plus, ce miracle, il n'est pas fait en privé. Il est fait devant des témoins qui peuvent tous attester que cet homme était infirme de naissance. Vous voyez ? Et tout ça, c'était visible. Donc, il n'y a pas de surprise ici. Les preuves sont assez éclairées et la lumière est vraiment faite dessus. Et pourtant, on va observer deux réactions. Dans le même texte ici, le verset 23 souligne, hein, c'est ici la foule, elle est vraiment stupéfaite et elle dit, mais waouh, pour faire des miracles comme ça, est-ce que ce ne serait pas le fils de David, autrement dit, le Messie, hein? Il était appelé comme ça, le Messie, celui qui allait venir libérer Israël. Et donc, la foule, logiquement, dit, ah ben tiens, ça y est, le Messie est arrivé. Pour faire de tels miracles, les boiteux marchent, les aveugles voient. C'était des textes dans l'Ancien Testament qui étaient connus, qui annonçaient la venue du Messie. Et c'est exactement ce qui se passe. Et donc la foule, elle est waouh, hein, c'est le waouh quand on voit un miracle. Par contre, il y a une autre population qui a vu exactement le même miracle. Et là, ce sont des pharisiens. Eux, ils nient le miracle parce qu'ils ne peuvent pas. Enfin, ils ne nient pas, pardon, le miracle parce qu'ils ne peuvent pas le nier. Ils les ont sous leurs yeux et comme il y avait quand même une foule assez immense, ils n'allaient pas nier une réalité. Mais alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont détourner. Au lieu de nier la chose, qui semblerait assez évidente, eh bien, ils vont transformer et ils vont changer l'auteur, la source du miracle. Et c'est ce qu'ils disent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Vous voyez, Belzébul à l'époque c'était le boss, hein, le boss des démons, c'était le diable en fait, en personne. Et l'accusation, elle est un peu forte quand même. On voit un miracle qui est fait par un homme et on dit non, c'est pas lui, c'est le diable. Un miracle aussi extraordinaire et pas qui est fait publiquement. Et puis, il chassait des démons, il y avait plein de bonnes choses que Jésus faisait. Eh bien, on détourne et on dit, mais non, c'est par le diable qui fait ces choses-là. Et ce n'était pas la première accusation. Regardez ce qu'il dit en Matthieu 9, 34. Mais les pharisiens disaient, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Et oui, il y avait déjà ces accusations qui étaient portées. En fait, Jésus les dérangeait. C'était un concurrent principal parce qu'on ne les écoutait plus. Les gens venaient écouter Jésus et il était très populaire. Quand on fait des miracles et qu'en plus on enseigne la parole de Dieu, ah bien là, les gens adorent. Et eux, ils avaient la parole, mais ils n'avaient pas autant de poids en fait. Puis en plus, ils en rajoutaient du poids sur les gens qui voulaient suivre la foi juive. Alors, vous voyez, ils remettent en cause l'origine. Ils ne nient pas. C'est un peu comme le conducteur de mon camping-car. Vous ne pouvez pas nier que mon rétroviseur était cassé. Il pendouillait sur la voiture. Mais, ce n'était pas lui. Mais non, ce n'est pas moi, je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu. Vous voyez, c'est difficile de prouver qu'on klaxonnait et qu'on a fait des appels de phare parce qu'ils ne sont plus là. Hein, on n'a pas eu, on n'a pas filmé, on n'a pas pris une photo à l'instant T, et donc prouver que j'ai klaxonné et fait des appels de phare. Par contre, il y avait des traces sur son camion, Il y avait une grosse balafre sur le côté de son camion. Et puis il y avait mon truc qui pendait, mais non, mais vous l'avez fait avant. Vous voyez, la mauvaise foi. Et c'est exactement la posture ici de ces pharisiens. Le miracle est tellement évident. Mais non, on s'obstine. Et justement, pour ne pas avouer, pour ne pas reconnaître, eh bien, on va inventer toutes sortes de choses pour ne pas aller dans la direction où il faut aller. Et là, il y a une leçon à tirer, déjà, à mon avis. C'est que l'évidence, le miracle, à elle seule, ne convertit personne. Pourquoi ? Parce que ça se passe au niveau du cœur. Tu peux voir tous les miracles que tu veux. Dieu peut les mettre, et d'ailleurs, il va refuser, juste après, il va refuser. Parce qu'ils vont lui dire, mais vas-y, montre-nous par des signes. Mais c'était pour le piéger, il le savait. Et il va leur dire, vous cherchez des signes, et il dit malheur à cette génération qui recherche des signes. Il ne vous sera donné aucun autre signe. Et il va dire, même si un mort ressuscitait devant vous, que vous le voyez se relever, vous ne croiriez pas. Vous avez Moïse et les prophètes qui annoncent déjà toutes ces choses, qui annoncent le fait que je vais venir, qui annoncent tous ces miracles. Vous les avez, ces écrits, et vous ne croyez toujours pas. Donc vous voyez, ce n'est pas les preuves qui manquaient aux pharisiens. Le problème venait de l'intérieur. Il venait du cœur, de l'endurcissement de leur cœur. Et là, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose, nous, déjà, quand quelqu'un est de mauvaise foi, on n'a pas grand-chose à faire. Eh bien, vous savez quoi ? Dieu non plus. Dieu non plus. On va y revenir. Alors, déjà, on va regarder un petit peu la réponse de Jésus à ces formes d'accusation. Il ne va pas contenter de se défendre hein, quand on nous accuse de faire des miracles au nom du diable. C'est un peu moyen quand même. Mais il va argumenter. Et il va donner quatre arguments ici. Et avec, voilà, je suis le texte, hein, les versets 25 et 26, il va dire, mais un royaume divisé contre lui-même ne peut pas durer dans le temps, c'est pas possible. Donc si je chasse les démons alors que je le fais avec un démon, mon royaume va s'effondrer. Ça n'a aucun sens. Et c'est absurde ce que vous êtes en train de dire. Le deuxième argument, il dit, mais vos fils, par qui chassent-ils des démons ? Parce qu'il y avait des exorcistes aussi à cette époque, et ils faisaient la même chose que Jésus, mais alors, il leur pose la question, mais eux là, vous leur dites rien, ils chassent des démons, mais par quel nom ? Au nom de qui ils font ça ? Est-ce que c'est aussi le diable, vous voyez ? Donc là, il va les titiller sur leur propre terrain. Ensuite, le troisième argument, il leur dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que Jésus agit, alors le royaume de Dieu est déjà là au milieu d'eux. Et ça, c'est un constat que les pharisiens ne peuvent tout simplement pas supporter. Ils veulent le faire périr. Et on a, tout au long, hein, même avant ce texte, ils cherchaient le moyen de le faire périr, de le piéger, de le coincer. Donc vous voyez, ils partaient déjà d'un postulat fermé. Leur cœur était blindé, fermé, rempli de même en fait. Ça c'est terrible. C'est terrible. Parce que quand on a une fermeture aussi forte, eh bien Dieu ne peut pas agir. Dieu ne peut pas agir. Et donc, Jésus était leur concurrent principal et ils ne voulaient pas qu'il vienne au devant de la scène. Alors ils ont tout fait pour l'abattre. Tout fait. Quatrième argument, c'est l'image de l'homme fort qui est ligoté. Comment Jésus pourrait piller une maison, la maison de Satan, s'il n'était pas plus fort que lui ? Si Satan est là et que je viens piller sa propre maison, il faut que je sois plus grand que lui. On est d'accord ? Et là, il est en train de démontrer que, ben oui, si je fais ces choses-là, ça veut dire que j'ai lié Satan et que moi, je fais ce que je veux, en fait. Donc, que j'ai l'autorité quelque part. Et la conclusion est claire, Jésus ne pourrait pas chasser les démons sans être plus fort que Satan. Et ça, c'est une preuve évidente qu'il agit par l'Esprit de Dieu. Et puis, Jésus termine. Et là, il va fermer définitivement la porte de la neutralité. Vous avez vu ce qu'il dit au 30, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Ça veut dire qu'il n'y a pas de troisième position possible. Pas de camping-car qui roule tranquillement sans jamais croiser Jésus. Soit tu es avec lui, soit, que tu le veuilles ou non, tu es contre lui. Il n'y a que deux camps en fait. On va y revenir. Mais soit on est avec, soit on est contre. Il n'y a pas de position suisse ici, dans la Bible. Il n'y a pas de neutralité. D'accord ? Je ne veux pas vous injurier ce matin, je ne vais pas blasphémer contre la Suisse. Troisième point, le verdict. Et là, on aborde la question qui fâche. Le péché apparaît. Alors déjà, qu'est-ce que ça ne veut pas dire, blasphémer ? Parce qu'il y a une lecture populaire qui considère que c'est un propos malheureux d'un homme, voire d'un chrétien, qui aurait perdu tout espoir de salut. Et donc ces gens sont tourmentés d'avoir commis cette faute. Si c'est votre cas, alors j'ai une bonne nouvelle. Votre tourment, votre crainte, vos peurs, eh bien ça indique au contraire une sensibilité au Saint-Esprit et une sensibilité peut-être au péché. La peur que vous ressentez, c'est une saine crainte de Dieu. Quelqu'un qui n'aime pas Dieu et qui n'entretient pas une relation avec lui, eh bien ne ressent rien quand bien même il aurait injurié Dieu. Hein, quelqu'un qui est déjà endurci, il ressent rien du tout. En revanche, celui qui est habité par l'Esprit de Dieu, eh bien lui, il va ressentir quelque chose, et parce que c'est probablement l'Esprit qui travaille en lui. Je vous prends ce texte. Si vous êtes dans la faiblesse, ça peut être dans vos pensées, hein. On peut avoir des pensées qui déraillent à un moment donné, des pensées blasphématoires. Par exemple, je prends juste cet exemple-là, mais quand on commence à remettre en cause la bonté de Dieu, on est déjà dans le blasphème. Parce que Dieu est bon, on remet en cause son identité. Vous voyez ? Ça veut dire que, alors quand je dis blasphème, c'est-à-dire qu'on dit quelque chose de faux sur Dieu. Et ça, c'est grave. On peut avoir ce genre de pensée. Ça peut nous traverser l'esprit. Mais ce n'est pas ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Là, il s'agit d'un péché, tout simplement, d'un détournement passager. Et là, on a une réponse. Romains chapitre 8. Regardez ce que dit le texte, au verset 26. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Quand on appartient à Jésus, quand l'Esprit est en nous, en fait, eh bien, Dieu nous garde. Et c'est lui-même qui intervient, qui intercède en notre faveur. Et vous avez vu ici, c'est il vient au secours de notre faiblesse. Une mauvaise pensée, c'est une faiblesse. C'est humain. On a tous, à un moment donné, flanchi dans un domaine ou un autre. Peut-être qu'on en veut à Dieu, qu'on est peut-être en colère. Je suis malade, il ne me guérit pas, ça dure, il y a une situation, je ne maîtrise rien. Ça peut être dans des relations. Ça, vous voyez, il y a énormément de choses qui peuvent venir nous souiller, ou souiller notre relation avec Dieu, souiller même l'identité de Dieu. Et bien là, si le Saint-Esprit est en nous, on se sentira mal, mais c'est le Saint-Esprit qui travaille. Et au lieu de vous accabler, il va vous relever. D'accord ? C'est vraiment l'objet de Dieu. Je vous donne ici la définition de Henri Briand, qui lui va corriger, en fait, cette fausse conception. Les gens qui pensent que c'est une insulte ou que c'est un gros mot lâché sous la colère, eh bien non, c'est pas ça. C'est pas une mauvaise pensée. Voilà ce que dit Henri Briand. Il dit « Blasphémer ne veut pas dire injurier dans le langage biblique. Il décrit plutôt la déclaration volontaire et calculée d'une fausse doctrine. Les pharisiens blasphémaient contre le Saint-Esprit lorsqu'ils déclaraient que Jésus agissait pour le compte de Satan plutôt que par l'Esprit de Dieu. Mais celui qui résiste au ministère de l'Esprit, refusant de reconnaître son péché face à Jésus-Christ, se place en dehors de l'unique salut que Dieu offre. Le blasphème contre le Saint-Esprit, et là c'est affiché derrière moi, Et donc un refus obstiné et persistant de Jésus-Christ face à sa lumière et à sa révélation. Ce n'est pas un péché que peut commettre l'enfant de Dieu. Il ne peut pas se faire par ignorance ou dans un moment d'inattention. Il est le rejet conscient de l'œuvre de Dieu et de Dieu lui-même. Fin de citation. Là, je retiens trois mots ici. Volontaire, calculé, conscient. Volontaire, calculé, conscient. Ce péché, ce n'est pas un accident de parcours. D'accord ? Il est volontaire, il est calculé et il est conscient et on peut dire qu'il nous dure dans le temps. D'accord ? On pourrait même rajouter la quatrième. Durable. En fait, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est plutôt une posture qu'une parole. C'est une décision du cœur qui est prise, en pleine connaissance de cause face à une évidence qu'on refuse délibérément de nommer pour ce qu'elle est. Et vous savez que le ministère du Saint-Esprit est décrit très clairement dans l'Écriture, et Jean, c'est celui probablement qui a le plus décrit son rôle. Et regardez ce qu'il dit, par exemple, au chapitre 16, au verset 8 et 11. Il dit, et quand il sera venu, donc il parle du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je l'opère et que vous ne verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Est-ce que vous avez remarqué ici que le péché, c'est pas le mensonge, le vol ou même l'adultère, même si ces choses sont graves et sont considérées comme des péchés. Mais si, il y a un péché, et c'est plutôt le péché qu'il mentionne, qui va nous condamner finalement. Et c'est quoi ici? Relevez-le avec moi. Ne pas croire en Jésus. Ça, c'est le péché qui tue. Le fait de ne pas croire en son Créateur, le fait de ne pas reconnaître que Jésus est central. Si vous prenez la Bible, depuis le premier verset jusqu'au dernier, on parle d'un libérateur. Alors pas au premier verset, hein, mais très rapidement, à partir du chapitre 3, l'homme va pécher, et donc Dieu va envoyer une solution, et on va la découvrir au fur et à mesure. C'est toute la grande histoire. Et donc Jésus est le personnage central. Si on enlève Jésus, les amis, eh bien il n'y a plus de salut. C'est l'auteur du salut. C'est l'auteur de notre foi. Et c'est lui qui l'amène jusqu'au bout, en fait. Et donc, si on refuse Christ, si on refuse de croire ce qu'il est venu faire, qui il est et ce qu'il est venu faire, eh bien, les amis, on n'a plus de solution. Il n'y a plus de solution par rapport à notre condition humaine. On est pécheur devant Dieu et on le restera pour l'éternité. Et donc, on est éloigné de Dieu à cause du péché et on va le rester éloigné pour l'éternité. 2 Thessaloniciens 1, verset 9, dit que on va rester loin de la face de l'Éternel. Une ruine éternelle loin de la face de Dieu. Vous imaginez ça? En fait, c'est ce qui attend tous les humains. Ça, c'est notre destinée à tous. Et donc, si on n'a pas une solution, s'il n'y a pas la solution, Jésus, eh bien, on ira tous dans cette destinée. C'est pour ça que ici le texte est très clair. Il viendra, le Saint-Esprit, nous convaincre nos cœurs que Jésus est la solution. Et si je refuse que Jésus est la solution, alors Dieu ne peut plus rien faire pour moi. C'est exactement ce qui se passe avec les pharisiens. C'est exactement ce qui se passe ici. Ils refusent la solution. Ils refusent de voir en Jésus le Messie. Et puis donc ils vont faire toutes sortes de choses, ils vont inventer des situations, ils vont détourner la vérité. Tout ça parce que leur cœur est endurci, leur cœur est fermé à Jésus. Vous savez, il y a quelques années, entre 1999 et 2005, il y a un coureur cycliste, hein, je vous parle de ça parce qu'on est en plein dans le Tour de France, eh bien il a remporté 7 fois de suite le Tour de France. C'est devenu un héros mondial, il a été atteint d'un cancer à un moment donné, et donc c'était le symbole d'espoir, parce que cet homme qui avait eu un cancer s'en est sorti, etc., et c'était vraiment un héros. Et rapidement, d'ailleurs dès sa première victoire, il y a eu du soupçon, parce qu'il surpassait tout le monde. Et donc il y a eu du soupçon de dopage. Et bien sûr, quand on est accusé, soit on dit, ok, j'avoue, j'ai fauté, je m'en repens et je change, soit on nie. Et c'est ce qu'il a fait. Il a nié tout en bloc et avec un aplomb absolu devant les caméras. Année après année, ça a duré des années tout ça. Il a même attaqué en justice ceux qui mettaient en cause il a ridiculisé ses accusateurs devant les caméras. Il a fait même pression sur des coéquipiers pour qu'ils se taisent. Et tout ça a duré des années, les amis. En 99 et en 2012. Donc vous imaginez, en 99, quand il gagne sa première victoire, et là on est en 2012, donc il a nié pendant toutes ces années, 13 ans. En 2012, il y a l'Agence américaine d'antidopage qui a publié un rapport de plus de 1000 pages, appuyé sur les témoignages d'une dizaine d'anciens coéquipiers et sur des données sanguines accablantes. Et voilà ce qu'elle décrit, et je cite, c'était le programme de dopage le plus sophistiqué, le plus professionnalisé et le plus efficace que le sport ait jamais connu. Et donc, l'Union cycliste internationale a carrément retiré les 7 titres et l'a banni à vie. Et pourtant, même à ce moment-là, il a continué à clamer son innocence. Vous imaginez, en 2012, les preuves étaient là, ses coéquipiers. Les analyses sanguines évidentes, il a continué de nier jusqu'en 2013. Et c'est là où il a reconnu seulement 14 ans après la première victoire. Vous imaginez, 14 ans. Il a dit, oui, je me suis dopé, tout est de ma faute. Et vous voyez, Lance Armstrong, c'est son nom. Il a fini par avouer. Mais ça a pris du temps, ça a pris du temps. Et vous avez remarqué, le mécanisme, ce n'était pas un doute honnête, ni une erreur de bonne foi, c'était vraiment un refus calculé de l'évidence, entretenu année après année et défendu en attaquant ce qu'il apportait. Donc oui, il a fait en fait exactement ce que les pharisiens ont fait en Matthieu 12. Ils n'ont pas nié que l'aveugle muet voyait et parlait, parce que c'est pas possible, la preuve était sous leurs yeux. Mais alors ils ont inventé toutes sortes d'explications. Ils chassent des démons, ils séparent le diable qui fait ces choses, etc. Et vous voyez, c'est ça, finalement, le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est nommer mal ce que l'on sait au fond de soi être bien et vrai. Pourquoi ? Parce qu'on refuse d'aller là où la vérité nous oblige à aller. Alors, j'ai dit ce que le blasphème n'était pas. Okay, on a aussi regardé ce que c'était. Maintenant, je vais donner deux lectures possibles. C'est-à-dire que vous avez en gros la réponse, hein. Mais il y a quand même deux petites subtilités. Et c'est Florent Braque qui le relève dans son livre sur le Saint-Esprit et les dons spirituels. Je vous encourage d'ailleurs à le lire, parce qu'il y consacre quasiment eu une annexe juste sur le blasphème contre le Saint-Esprit. Et donc, il dit qu'il y a plusieurs lectures et qu'il en retient deux, en fait. Donc les autres, il les a forcément écartées. Donc celle d'une parole, les amis, vous le balayez, c'est une attitude, hein, vraiment une attitude de cœur. Un enracinement dans le péché et une fermeture du cœur. Okay ? Maintenant, il y a deux positions. Selon cette lecture, donc la première lecture, c'est que le péché du non-croyant qui meurt dans l'incrédulité. Donc selon cette lecture, le blasphème contre l'Esprit, c'est le péché que commet le non-croyant qui demeure dans l'incrédulité et l'opposition à Christ jusqu'à sa mort. Alors bien entendu, cette condamnation, elle est levée à l'instant même où l'individu se convertit en plaçant sa foi en Jésus-Christ. Donc, on peut comprendre de cette manière-là. Et ça vient d'un auteur qui le traduit comme ça. Je vous lis l'analyse. Nous devons comprendre cela dans le contexte de l'attribution à Satan des bonnes actions de Jésus par les pharisiens. Le péché qui ne peut être pardonné ne doit pas être compris comme la prononciation de certaines paroles. Jésus parle de l'ensemble de la vie et non d'une parole isolée. Lorsqu'une personne adopte une position comme celle des pharisiens, lorsque, non par incompréhension mais par hostilité au bien, elle qualifie le bien de mal et à l'inverse fait du mal son bien, elle s'est mise dans un état qui empêche le pardon. Ce n'est pas que Dieu refuse de pardonner, c'est que la personne qui voit le bien comme un mal et le mal comme un bien est tout à fait incapable de se repentir et donc de s'approcher humblement de Dieu pour obtenir son pardon. Et il n'y a pas d'autre chemin vers le pardon que celui de la repentance. C'est en fait ce que j'ai démontré jusqu'ici. Mais Florent Varac a une autre lecture, elle est un peu minoritaire, mais je la trouve intéressante et je vais vous la livrer, parce qu'elle écarte définitivement l'idée qu'on pourrait commettre le blasphème contre le Saint-Esprit aujourd'hui. Voilà ce qu'il dit. Voir l'Esprit de Dieu à l'œuvre dans le Christ et en attribuer la paternité au diable est irrémédiable. Ces pharisiens ont commis une faute historique, mais c'est une faute que personne ne peut commettre aujourd'hui. Car Jésus ne marche pas dans nos rues comme il l'a fait au premier siècle. Personne ne peut observer le Christ dans sa puissance et sa sagesse, comme ont pu le faire les foules du temps de son incarnation. Je pense que le blasphème contre l'Esprit est le rejet idéologique de Christ par la génération qu'il a vue. C'est un péché qu'il n'était possible de commettre qu'à une seule période de l'histoire, en la présence du Fils de Dieu, marchant sur la terre. Donc vous voyez là, ça ressemble, hein, les deux versions se ressemblent, seulement là il est en train de dire que ça ne pouvait concerner que les gens qui ont vu Jésus de manière historique. Vous voyez ? Et donc, les deux sont plausibles. Vous voyez, ce matin, je ne suis pas très affirmatif, je suis catégorique sur le fait que ce n'est pas une parole. D'accord ? Par contre, voilà, on pourrait, selon la première interprétation, toujours blasphémer contre le Saint-Esprit si on s'endurcit en fait, et si on ne répond pas à l'appel de Jésus. Allez, je passe aux applications. Conclusion. La première que j'aimerais faire, elle s'adresse à ceux qui tremblent. Si tu trembles, détends-toi. Détends-toi. Peut-être que tu venais ce matin avec cette crainte d'avoir un jour, ou peut-être un jour, de blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce qu'il y a aussi cette possibilité, c'est pas je l'ai fait, mais je pourrais peut-être éventuellement le faire. Et bien là, je te rassure, non, tu ne peux pas le faire. Si tu es croyant, tu ne peux pas, tu ne peux plus blasphémer contre le Saint-Esprit. En fait, si tu es tourmenté à cette idée, c'est justement la preuve du contraire. C'est la preuve que le Saint-Esprit est en toi. En fait, quelqu'un qui est endurci, qui a blasphémé contre le Saint-Esprit, ne se pose absolument pas la question. Vous auriez pu poser la question aux pharisiens pour les culpabiliser. Absolument pas. Pas parce que eux avaient raison. Vous voyez, ils étaient dans une autre posture. Eux avaient déjà les réponses. Et donc, ils écartaient ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux. Et Jésus allait clairement à l'encontre de leur enseignement. Donc, vous voyez, donc, c'est pas ça. En fait, je te rappelle, Romains, chapitre 8, verset 26, que quand tu es dans le trouble comme ça, demande à Dieu de t'aider. Il le fait déjà. Il va te garder, en fait. Donc n'aie pas peur, n'aie plus peur. Ne te rajoute pas un fardeau que Dieu ne fait poser sur tes épaules. Même le texte s'adresse pas aux croyants ici. Les pharisiens n'étaient pas chrétiens. Le texte s'adresse aux pharisiens ici. Hein. Attention, c'est pas à des croyants, c'est pas à des disciples de Jésus. Et donc ce blasphème contre le Saint-Esprit concernait les pharisiens. C'est eux qui le visaient, c'est pas toi, ni moi. Ok. La deuxième application, si tu t'éloignes, ça peut arriver, alors n'endurcis pas ton cœur. Vous savez, on a des moments de faiblesse dans la vie, on est fragile, on est des humains, et il peut nous arriver de nous éloigner de Dieu, perdre la communion. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie chrétienne. Vous voyez, pas forcément même un péché flagrant, mais s'éloigner petit à petit de Dieu. On lit plus sa Bible, on prie plus, ou alors vite fait à l'arrache, on va lire un petit feuillet sur un calendrier là, que vous avez probablement dans vos WC, que vous feuilletez, c'est bien, mais c'est pas forcément suffisant et nourrissant en fait. Ça peut combler quelques lacunes dans ta vie, mais ça ne va pas nourrir ton âme. Hein, ça, c'est un petit apéro quelque part. Hein, mais tu ne te nourris pas de cacahuètes toute ta vie. Tu vas manger des choses plus substantielles qui vont t'aider à grandir, qui vont t'aider à te développer, à avoir une structure solide. C'est ce qu'on veut, c'est ce que Dieu veut. Mais il se peut que dans ta vie, ben, petit à petit, le travail faisant que, tes activités, le stress, des situations qui changent, eh bien, petit à petit, on peut s'éloigner. Et quand on s'éloigne, vous savez ce qui se passe ? Quand on s'éloigne de Dieu, qu'on perd cette communion, on est sur une planche glissante, et elle ne va jamais en direction de Dieu. Mais Dieu est là-bas, et, là, et moi je suis là, et la pente, elle descend toujours de l'autre côté. Si vous vous laissez influencer par le monde, je peux vous assurer qu'il ne vous attirera pas à Jésus. Mais c'est clair et net. Qui c'est qui gouverne le monde aujourd'hui ? Qui est le prince de la puissance de l'air ? Celui qui gouverne ce siècle ? C'est Belzébul. C'est le prince des démons. C'est Satan lui-même. Il influence ce monde. Et ce monde va où ? Dans son plaisir. Dans sa recherche du bonheur personnel. Vous voyez ? Individualisé. Et on est en plein là-dedans. Et c'est là où tu vas te destiner, petit à petit. Si tu ne corriges pas le tir, mes amis, mon ami, alors je peux t'assurer que c'est là où tu vas aller. Au début, tu vas attrister le Saint-Esprit, et petit à petit, tu vas peut-être même l'éteindre. Et Paul ne laisse même pas cette ambiguïté. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, je crois que c'est le verset 19, il dit « N'éteignez pas l'Esprit ». Et là, il parle dans la communauté. C'est-à-dire qu'on peut se fermer les uns aux autres, hein, et dans nos relations, éteindre l'esprit. C'est-à-dire qu'on peut faire exactement ce que faisaient ces pharisiens, quelque part. Moi j'ai raison, tous les autres ont tort. Et se brouiller avec tout le monde. Et là, on a commencé déjà à éteindre l'esprit. Relisez le contexte, 1 Thessaloniciens 5, vous allez voir, c'est vraiment collectif. Et comme c'est collectif, eh bien la Bible nous encourage. Et c'est le verset que j'aimerais, les deux versets, dans Hébreux chapitre 3. Vous rappelez ce matin. Prenez garde, frères et sœurs, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Vous voyez, ça commence là. On ne croit plus. On fait plus confiance. Au point de se détourner du Dieu vivant. Vous voyez, il s'adresse à des chrétiens, là. Des chrétiens qui étaient avec Dieu et qui vont se détourner du Dieu vivant. Et regardez ce qu'il dit. Mais exhortez-vous les uns les autres. Chaque jour, ça veut dire que c'est important de se voir les uns les autres, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Vous allez toujours trouver mieux ailleurs. L'herbe sera toujours plus verte chez le voisin. Et là, il est en train de dire, si vous continuez, si vous ne vous exhortez pas les uns les autres, c'est là où vous allez vous finir en fait. Vous allez vous endurcir, vous allez vous laisser séduire définitivement par le péché. Et vous ressemblerez comme deux gouttes d'eau à des bons frères. Et ça, c'est terrible. Vous en connaissez des chrétiens comme ça ? On en connaît, hein ? Au début de l'année, il y a quelqu'un qui a démissionné et qui a dit voilà ce qui se passe. Il s'est laissé séduire par le péché et il s'est éloigné. Et moi, je prie pour qu'il revienne. Je prie pour qu'il revienne. Parce que je pense qu'il est dans cette situation-là. Il ne voyait plus Christ comme la solution, son espoir suprême, mais son péché, son petit bonheur personnel. Et donc, il est allé chercher ailleurs que dans le Christ. Quand on se détourne de Jésus, les amis, eh bien, voilà ce qui se passe. On s'éloigne. Mais il y a une bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes dans ce cas-là, vous la connaissez déjà, la solution. 1 Jean 9. Hein ? 1 Jean 9, elle s'affiche ici. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Là, il ne s'agit pas de bons chrétiens, là. C'est des gens qui pêchent. C'est des gens qui fautent. C'est des gens qui, à un moment donné, déraillent. Et c'est à eux qu'il allait donner cette solution. Pas celui qui pense qu'il n'a pas de problème. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il n'y a pas un péché que Jésus ne peut pas pardonner. Sauf l'incrédulité. Mais ça ne correspond pas aux chrétiens. On est d'accord ? Donc, là, t'es chrétien, ça veut dire que n'importe quel péché Dieu peut pardonner. Si c'est ton cas ce matin, eh bien, viens Jésus. Viens Jésus et il va changer ça radicalement. Ça va changer ta vie. Tu peux t'en assurer. Troisième application. Et là, c'est ceux qui regardent de loin. Décide-toi. Décide-toi. Vous savez que durant, tu peux mettre l'image après, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des forces navales américaines qui étaient postées dans l'Atlantique Nord et qui ont livré un dur combat contre les navires des sous-marins ennemis par une nuit exceptionnellement noire. Et il y a donc 6 avions qui avaient décollé et qui étaient en l'air et qui voulaient atterrir. Mais comme on ne voulait pas se faire repérer par l'ennemi, eh bien, on avait éteint toutes les lumières. Et puis, y a ces 6 avions qui étaient dans le ciel et puis qui disaient « Mais on ne voit rien, la lune ne peut pas éclairer quoi que ce soit, on ne peut pas repérer le bateau. Est-ce que vous pouvez rallumer les lumières juste quelques instants le temps qu'on atterrisse ?» Et devinez ce qu'a dit la direction du bateau. Le capitaine a dit « On n'allumera rien. Ici, il y a des milliers d'hommes dans ce porte-avions. Si on allumait les lumières, on va éclairer notre position à l'ennemi et on va nous descendre. » Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas éclairé. Et donc les avions ont continué à tourner jusqu'au moment où ils n'avaient plus d'essence et leur avion s'est craché dans l'eau glaciale et ils sont tous morts. Les 6 pilotes sont morts. C'est terrible. J'entends un petit tap-tap. En fait, ces 6 personnes sont mortes. Chers amis, il y a un temps où Dieu éteint les lumières. Et toute possibilité d'être sauvé est perdue à jamais. Ce matin, Dieu t'a fait des appels de phare. Il a klaxonné. Il t'a envoyé des messages ce matin pour te dire « Eh oh, je suis là hein ?» Peut-être que tu ne m'avais pas rejeté, mais tu m'ignores bien depuis bien longtemps. Ce matin, il te fait un appel. C'est pas un appel du pied, là. C'est vraiment un appel de phare. Hein. « Oh, je suis là, Jésus. Je suis le seul qui peut te sauver. Je suis le seul. » Et il y a ce texte, c'est Paul qui le dit. « Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Repousse pas demain. Tu ne sais pas si, en sortant de cet hôtel, tu n'auras pas un accident de voiture. Ça peut arriver à tout le monde. Alors, même si ce verset est un peu pressant, sache que ce n'est pas moi qui te mets la pression. C'est le Saint-Esprit. Peut-être que ce matin, Dieu, vraiment, tu t'es dit « Waouh, là, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin parce que je suis tellement ébloui ou averti qu'il faut que je me tourne vers lui. » Mais si tu dois venir avec lui, tu dois venir avec lui, auprès de Jésus, avec le cœur vide. Pas avec tes certitudes. En fait, Dieu ne peut pas remplir un cœur qui est déjà plein de lui-même. Si tu as tes propres certitudes, Dieu ne peut pas venir dans ton cœur. Tu dois obligatoirement venir le cœur vide. Jésus dit, heureux les pauvres en esprit. Heureux les mendiants, ceux qui n'ont rien apporté à Dieu. Vous voyez ? Tu peux rien apporter à Dieu. Et c'est pour ça que tu dois te considérer comme un mendiant. Tu dois venir le cœur vide pour que Jésus vienne et lui demander de venir en toi. C'est la seule possibilité. Par contre, si tu veux garder ton cœur plein, tu connais la destinée. Tu la connais. Et là, c'est le péché impardonnable. C'est l'incrédulité. Dieu ne pourra plus rien faire. Mais Dieu ne violera jamais ta conscience. Ce n'est pas moi ce matin qui te fais un forcing. Mais c'est un appel clair que Dieu te fait. Donc si tu n'as pas encore confié ta vie à Jésus, eh bien je t'invite à le faire. Et à prier même avec moi maintenant. Je vais conclure par la prière. Père éternel, merci pour le privilège de pouvoir étudier ta parole. Merci parce que en l'étudiant près, on est rassuré. On sait qu'en tant que croyant, on ne peut pas blasphémer contre toi. On peut pécher, certes. On peut dire du mal, on peut, oui, quelque part, t'insulter, mais on ne peut pas blasphémer contre l'Esprit. Merci Père parce que tu intercèdes toi-même pour nous en ce moment même si on est dans le doute. Merci parce que le salut ne dépend pas de moi, il ne dépend même pas de mon obéissance. Il dépend de ce que tu as fait à la croix, de ton obéissance à toi, et ton obéissance est parfaite. Et Seigneur, je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui te regardent de loin. Seigneur, pousse-les à prendre une décision pour toi. Pousse-les à venir dans tes bras, s'il te plaît. Qu'ils ne repartent pas de cette salle avec une incertitude, mais au contraire, qu'ils puissent saisir le message de l'Évangile, le salut que tu offres et que tu as offert à tous ceux qui se repentent. Seigneur, un salut éternel, un salut qui nous garantit une éternité dans ta présence. Seigneur, c'est extraordinaire et j'aimerais tellement que tout le monde puisse connaître cette vérité et te connaisse toi. Et c'est ce que je souhaite à ceux qui ne te connaissent pas ce matin. Donne-leur cette force de se tourner vers toi. Donne-leur le désir